France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Je suis en colère. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours cherché à dépasser cette émotion. Je la trouvais inutilement toxique et dangereuse. Pourtant, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à la réprimer. Elle tambourine dans ma tête face aux violences décomplexées du système qu'on nous impose. Un système qui nous divise pour mieux régner, creuse les inégalités et saccage le vivant. Face aux crises sociales, économiques, sanitaires, écologiques, orchestrées par une minorité qui en tire profit, comment ne pas être en colère ? La question de l'accès à une alimentation digne, saine, durable, choisie, abordable, a toujours été centrale, que ce soit dans les missions humanitaires que je coordonnais en Afrique ou depuis bientôt 10 ans à Foodwatch, contre-pouvoir citoyen 100% indépendant. En France, une personne sur trois aujourd'hui n'a pas accès à une alimentation saine en quantité suffisante pour manger 3 repas par jour. Et celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied pour produire notre nourriture font partie des plus touchés. Une agricultrice, un agriculteur sur 6 vit sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Il y a urgence. Une urgence à réagir ensemble. Une urgence à faire contrepoids citoyen face à l'irresponsabilité et l'inconséquence de politiques trop souvent menées au détriment du plus grand nombre. Une urgence à métaboliser notre colère en énergie pour changer les choses.
Bonjour Karine Jacquemart.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir lu les premières lignes de votre ouvrage, Les dangers de notre alimentation, qui était sorti il y a un an, quasiment jour pour jour, aux éditions Payot. La colère est toujours là ?
La colère est toujours là et elle le grandit, mais la détermination aussi d'être là pour et avec les gens pour transformer cette colère en action et ne pas accepter l'inacceptable.
Est-ce que vous avez le sentiment justement que la colère est un sentiment de plus en plus partagé et qui s'est généralisé ces dernières années dans la société ?
Oui, absolument, et à juste titre, j'ai envie de dire, parce que quelle violence en fait, quelle violence d'avoir des politiques qui laissent sur le carreau des millions de gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont du mal, comme je le disais, à accéder à un droit fondamental, une alimentation saine, la colère des agriculteurs qui est détournée, on en reparlera, mais dont la simple demande vraiment urgente, c'est de vivre dignement de leur production et d'une reconnaissance. Donc cette colère, elle est partagée et j'ai vraiment à cœur, du coup, de dire aux gens, en fait, on vous voit et qu'est-ce qu'on en fait ? Et je vois aussi des colères qui pourraient être mal utilisées et parce que les gens ne savent plus, en fait, quoi faire pour se faire entendre. Et c'est pour ça qu'on va en parler, mais le fil conducteur, c'est que j'ai vraiment envie de dire aux gens, on est ensemble, vous n'êtes pas tout seul, on peut utiliser cette colère, la métaboliser pour changer les choses de façon positive, recréer du lien social, recréer du droit, recréer de la justice sociale et environnementale.
Elle n'est pas toujours bonne conseillère, justement, la colère, pour mobiliser les troupes ?
Non, et c'est pour ça que je me suis moi-même surprise, pour tout vous dire, à écrire, quand je me suis décidée à écrire ce livre...
Sous le coup de la colère ?
Non, c'était sous le coup d'essayer d'être utile, justement, à cette société et aux millions de gens qui ne savent plus trop vers qui se tourner, face, encore une fois, à des politiques injustes. Et qui les mènent dans des situations intenables. Et du coup, cette colère, j'ai voulu aussi l'exprimer pour dire aux gens, je vous vois, en fait, je vois votre colère. Et en acceptant de reconnaître moi-même que je suis en colère, c'est une façon de dire, ok, je suis en colère, et c'est normal que vous le soyez aussi. Maintenant, on va décrypter pourquoi on est en colère, à juste titre, parce que le système en face est violent, mais ne pas en rester là, et dire comment on change les choses, pour ne plus avoir besoin d'être en colère, parce que tout simplement, on aura réussi ce changement, et de tout simplement remettre un peu de l'ordre dans notre société.
Et vous en êtes où là sur le chemin de la transformation de la colère alors ?
J'en suis dans l'action parce qu'en fait l'actualité n'arrange pas les choses et je crois que plus on résiste et plus on fait des coalitions larges, ce qui est le cas aujourd'hui contre la loi du plomb, dans le scandale des laits infantiles, on va y revenir. Je crois que plus on montre que justement on est ensemble, on fait front, plus la petite minorité en face de multinationales et de décideurs politiques qui rament pas dans le bon sens sentent bien que en fait ils vont plus pouvoir jouer à pas vu pas pris tout le temps et ils sont un peu en train de gesticuler. Donc ils font des trucs encore plus inacceptable. Mais on est là, on est en face, et je veux croire que c'est le chant du cygne d'un système qui est à bout de souffle.
Karine Jacquemart, vous en parliez, dans le monde de l'agriculture, la colère des paysans et des paysannes s'exprime elle aussi de plus en plus souvent. Est-ce que c'est une colère à l'unisson ?
Alors, pas du tout, parce que du coup, il y a des mondes agricoles et des intérêts divergents, mais on entend toujours la grosse voix du syndicat majoritaire de la FNSEA, dont le président, par ailleurs, est loin d'être un paysan, puisqu'il faut rappeler de qui on parle et d'où les gens parlent, et donc c'est un président d'un gros groupe agro-industriel qui défend des intérêts autres que ceux d'une agriculture qui doit aller vers une transition plus durable, plus solidaire et qui ne détruit pas notre outil de production de demain. Et donc, ce qu'il faut redire, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que la majorité des agriculteurs, clairement, si vous leur demandez, et il y a eu des sondages qui ont été mis un peu sous le tapis, la majorité des agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est vivre dignement de leur production. On peut reparler de l'opacité sur la construction des prix, par exemple, mais pas seulement, donc une reconnaissance. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est un soutien pour sortir du système aujourd'hui qui est dépendant des pesticides toxiques bien trop présents encore, les accompagner vers une transition qui nous permettrait d'être de nouveau en adéquation avec une alimentation saine et une vraie souveraineté alimentaire. Je le redis tout de suite, la vraie définition de la souveraineté alimentaire des Nations Unies de 2018, c'est le droit des peuples à décider ce qu'ils mangent de façon durable, saine et comment ils le produisent. De la démocratie alimentaire, on en est loin.
Est-ce que la principale raison de la colère justement des agriculteurs et des agricultrices, c'est vraiment la lourdeur des contraintes environnementales aujourd'hui ? Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup.
Mais surtout pas, en fait. Et c'est vraiment une manipulation éhontée qu'il faut dénoncer. Enfin, là, dans l'actualité, on a quand même le sénateur Duplon qui revient en plus avec une loi Duplon 2. Donc, pour qui se prennent-ils des sénateurs comme le sénateur Duplon, tous les parlementaires qui ont osé voter cette loi, la ministre même de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, pour qui se prennent-ils
Annie Genevard,
pour qui se prennent-ils alors que les scientifiques ont un consensus sur la dangerosité de ces substances, alors qu'on voit qu'on contamine nos sols, notre eau, c'est-à-dire non seulement l'environnement vital, mais aussi notre outil de production de demain, alors que plus de 2 millions de citoyens, citoyennes ont signé cette pétition contre la loi Duplon, pour qui se prennent-ils pour se permettre de revenir quelques mois à peine après et penser qu'on ne va pas se mettre sur leur route pour les en empêcher ? Donc en fait, il y a vraiment deux mondes. Il y a une petite minorité politico-industrielle qui veut profiter d'un système qui est dépendant de pesticides de synthèse. Donc il y a le lobby des pesticides qui attaque en permanence les lois. Il y a cette petite minorité d'acteurs qui ont une grosse voix et qui ont malheureusement l'oreille du ministère de l'Agriculture depuis beaucoup trop longtemps. Et ça fait qu'ils veulent nous imposer un système qui est contraire au reste. Alors les normes environnementales, c'est un prétexte. Je répète, ce dont ont besoin agriculteurs, agricultrices en France comme en Europe, et puis partout d'ailleurs, c'est de vivre dignement de leur production. Et pointer du doigt les normes environnementales, c'est une stratégie pour démanteler le peu de normes protectrices pour la santé et environnementale qu'on a en France et en Europe.
Qu'est-ce que vous lui dites à M. Duplon, alors, lui qui revient justement avec une deuxième loi ?
Mais je lui dis, mais quelle toupée, en fait ! À quel moment pensez-vous pouvoir envoyer comme ça ce mépris à la tête de plus de 2 millions de citoyens, citoyennes qui ont signé cette pétition, du quand même le Conseil constitutionnel qui a retoqué la réautorisation, n'est-ce pas, des molécules liées à l'acétamipride, et puis de la science, et puis de l'intérêt général. Et puis je vais vous dire quelque chose qui m'a touchée en venant ici dans ce studio. Sur le réseau social de LinkedIn, j'ai reçu un message que je lisais. Charlotte, 42 ans, qui m'a écrit pour me dire « Je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis mère célibataire, j'ai 42 ans, ma vie est absolument, du coup, bouleversée. Vous avez raison, je vous remercie de porter la voix de nous toutes, nous tous, pour dire « Ça n'est pas possible d'accepter ce système qui empoisonne nos vies, en fait. Ça n'est pas possible d'accepter ce système qui rend les gens malades alors que c'est évitable, qui contamine nos sols, notre eau, nos ressources de demain. Ça n'est pas possible d'accaparer, en fait, l'intérêt général, la vie collective pour l'intérêt d'une petite poignée sur le plan économique seulement. » Eh bien, Charlotte, je vous le dis, et à tous les auditeurs, auditrices, je vous vois. Merci de ces encouragements. C'est pour ça que je le fais. Et bien sûr qu'on va continuer à leur tenir tête.
Karine Jacquemart, on va revenir sur ces différents dossiers, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui vous mobilisent justement à Foodwatch. Mais c'est le principe de cette émission du vendredi, c'est de revenir aussi sur le parcours de nos invités pour comprendre aussi un petit peu les racines de leur engagement. Vous qui êtes née en Gironde en 1973, est-ce que vous étiez déjà une petite fille en colère ou pas ?
J'étais pas en colère, mais j'étais extrêmement touchée, révoltée déjà par les injustices.
Mais à quel âge ?
Depuis toujours, je
crois.
Depuis toujours, ouais, absolument.
Comment vous l'expliquez ?
Je sais pas, c'est une hypersensibilité peut-être. Mon caractère étant ce qu'il est, tout de suite, mon mécanisme de survie a toujours été de me dire qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on n'était pas obligé de subir sans rien dire, ce qui est pour moi intenable. Mmh. Et je me rappelle, par exemple, pour l'anecdote, à l'école primaire, il y avait une camarade de classe qui était obèse. Et alors c'est un peu ridicule, mais j'assume, c'est aussi de là que ça vient. Mais je me rappelle très bien être allée la voir et lui dire si quelqu'un t'embête, tu viens me voir et voilà, je vais aller un peu régler son compte à cette personne. Donc il y a un côté comme ça, un peu justicière que j'ai depuis que je suis née,
je pense. C'est pour ça que je vous présentais comme guerrière tout à l'heure.
Je préférais ne pas avoir à faire la guerre. Si les droits fondamentaux et ces pratiques abusives n'existaient pas, on pourrait tout simplement être tranquille. Mais puisque la guerre est menée par ceux qui nous imposent cette violence, alors oui, je deviens une guerrière, non violente, mais déterminée.
Le contexte familial, justement, il a façonné quand même aussi votre regard collectif et pour le collectif et l'intérêt général, justement, en particulier.
Oui, je le crois, c'est assez évident, parce que j'ai la chance d'avoir eu deux parents, j'ai perdu mon papa il y a quelques mois, mais j'ai la chance d'avoir eu deux parents instituteurs, donc j'ai été biberonnée vraiment à l'éducation nationale, à l'éducation populaire, en plus ils organisaient des colonies de vacances, donc...
Est-ce qu'ils écoutaient France Inter ?
Alors, mais oui, tout le temps, le téléphone sonne, j'ai dîné des années...
Ce sont de vrais instituteurs.
Oui, ce sont de vrais instituteurs, et plus que ça, puisque du coup, ma mère est devenue aussi directrice d'école primaire, elle était vraiment dans la transmission, alors depuis toute petite, elle voulait être institutrice, c'était vraiment sa vocation, et mon père s'est aussi beaucoup travaillé dans l'éducation populaire et est devenu rééducateur spécialisé, donc s'occupant et accompagnant des enfants aussi un peu en difficulté. Donc voilà, il y a quand même un atavisme, et ça veut dire aussi que j'ai grandi, je crois, et je les en remercie, avec ce sens du collectif, de prendre soin des autres, de transmettre.
Et comment ça s'est transformé en militantisme, alors, ensuite ?
Je crois que j'ai eu un militantisme un peu tardif. Alors, dans la vie quotidienne, j'ai toujours essayé moi-même de respecter évidemment les autres et de porter le collectif. Le sport collectif aussi, ça, c'est intéressant. J'ai joué au handball pendant des années et ça aussi, c'est formateur de faire équipe, en fait. Et après, la difficulté, c'est aussi pour ça que merci de votre invitation, que j'ai plaisir à venir ici. J'aime pas trop parler de moi, mais j'ai réalisé que quand j'étais jeune, il m'a manqué aussi des exemples d'histoires de militants, de militantes un peu inspirantes, qui pouvaient m'indiquer des métiers comme le métier de l'humanitaire vers lequel je suis allée, de journaliste d'investigation. Donc, j'avais pas trop ça dans mon entourage.
Pourtant, il y avait des grandes figures quand même déjà, non ? Parce que là, on parle des années 80-90.
Ouais. Hein. Je ne l'ai pas compris tout de suite, en tout cas. Voilà. Et du coup, on va y venir, mais c'est vraiment à 29 ans que j'ai commencé cet engagement. Alors pour le coup, une fois que j'ai compris que je pouvais en faire mon activité à temps plein et que je me suis vraiment engagée dans le militantisme, je n'ai plus lâché.
Et ça s'illustre comment alors ? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous partez ?
Je décide de partir dans l'humanitaire. Et en fait, il y a aussi une petite anecdote, c'est que comme les injustices m'énervaient et que j'aimais bien me renseigner sur la géopolitique et tout ça, du coup je refaisais le monde, comme beaucoup d'entre nous, sur mon canapé parisien avec des amis. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, soit tu te tais, soit tu fais quelque chose. Et donc, il faut aller voir, mieux comprendre et voir comment on peut se rendre utile. Comme je suis incapable de me taire, j'ai décidé de m'engager, n'est-ce pas ? Et donc, je me suis renseignée à ce moment-là sur les associations et je suis partie avec Action contre la faim au Sri Lanka tout d'abord et après, j'ai enchaîné les missions en Afrique.
Donc, les missions, effectivement, en Afrique. Ensuite, il y a eu le passage par Greenpeace et donc l'arrivée à Foodwatch, dont vous êtes la directrice pour la France, oui. Karine Jacquemart. On va en parler dans un instant pour voir aussi les combats que vous menez au sein de cette ONG. Vous êtes notre invité au carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Voici l'homme qui a ouvert la porte à toutes les craintes, Stephen Dorrell, ministre anglais de la Santé. Ce jour-là, le flegme britannique des élus de la Chambre des communes ne pourra pas calmer les esprits après l'ampleur de la révélation. La maladie de la vache folle pourrait tuer les consommateurs. Pourrait, mais très vite, ce conditionnel n'existe plus. Dès le lendemain, la France décide de prendre le taureau par les cornes. Paris suspend ses importations de viande bovine en provenance de Grande-Bretagne.
Nous ne pourrons pas accepter de viande sans garantie de sécurité de la part de quelques pays que ce soit, en l'occurrence la Grande-Bretagne.
Et l'Union européenne suit, ce sont les négociations de Bruxelles le 27 mars. La Commission vote à l'unanimité l'embargo, l'unanimité moins une voix, celle des Anglais.
Archives de France 3, c'était en mai 1996, la crise de la vache folle. Karine Jacquemart, vous qui êtes la directrice générale de l'ONG Foodwatch France depuis 2015, vous êtes notre invitée cet après-midi et cette crise va donner naissance à votre ONG, en fait, c'est ça, quelques années plus tard?
Oui, c'est ça, en fait. Le fondateur, Thilo Bode, qui est désormais à la retraite, mais était l'ancien directeur international de Greenpeace. Et au moment du scandale de la vache folle, en fait, il a réalisé qu'il n'y avait pas d'ONG, d'association comme Greenpeace 100% indépendante, donc sans subvention publique, sans don d'entreprise, sur le sujet de l'alimentation. Et ça lui a sauté aux yeux que ça pourrait être utile. Il avait raison, donc il a créé Foodwatch en 2002 en Allemagne. Et très vite, il s'est rendu compte que tout ce qui touche à l'agriculture et l'alimentation s'est réglementé à 90% à l'échelle européenne, ouais. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Mmh. Et donc, il fallait essaimer et avoir de l'influence en Europe. Donc voilà, donc ils ont ouvert aux Pays-Bas. Et puis, en 2013, il y a Ingrid Kragle, qui est toujours dans l'équipe, qui est notre directrice de l'information des investigations, qui a commencé à explorer un peu pour ouvrir le bureau à Paris. Et donc, c'était la première personne du bureau français. Et moi, j'ai rejoint en 2015. Et depuis, on développe nos campagnes, ouais. et notre équipe.
Qu'est-ce qui vous a convaincu d'ailleurs de choisir cette ONG-là plutôt qu'une autre ?
Pour moi, cette question d'indépendance était essentielle. C'est-à-dire que je venais de Greenpeace et j'avais compris, en étant à Greenpeace en Afrique, que cette liberté financière donnait quand même une liberté, justement, d'enquête et de dénoncer, de faire ce qu'on appelle le name and shame, donc nommer et faire honte, de pouvoir, en fait, mettre les points sur les i, sur les vrais responsables des injustices que l'on vit.
Ça, c'est la stratégie, vraiment, de l'association ?
Ah oui, oui, tout à
l'heure. C'est nommer... Oui, c'est-à-dire pour faire honte.
Oui, c'est-à-dire que donc l'association qui est européenne, bien l'objet en fait, c'est défendre le droit de toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable et qui rémunère correctement les agriculteurs et agricultrices. On ne le dira jamais assez. Et donc ça passe par la question du droit des consommateurs aussi à la transparence de l'information. Donc on dénonce arnaque sur l'étiquette, marketing abusif, etc. Mais aussi la question de santé. Donc tout ce qui est en fait qui ne devrait pas être dans nos assiettes, mais qu'on y trouve comme des additifs controversés pour la santé, les additifs à base de nitrite par exemple dans la charcuterie, mais aussi les résidus de pesticides, des contaminants comme les huiles minérales que l'on a combattues pendant 10 ans, les PFAS, ces polluants éternels. Donc en fait on va se battre à l'échelle européenne et avec plein d'alliés pour faire supprimer tous ces intrus qui n'ont rien à faire dans nos assiettes, mais aussi améliorer la qualité nutritionnelle des produits. Aujourd'hui le nouveau combat c'est quand même les aliments ultra transformés qui sont beaucoup trop présents dans les rayons. Enfin, c'est 70% en moyenne des produits dans les supermarchés. Mmh. Alors qu'il y a des études scientifiques qui pointent du doigt de plus en plus des risques sérieusement documentés pour la santé. Donc voilà, et de plus en plus l'aspect économique.
Comment vous faites le tri d'ailleurs entre toutes ces pratiques, ces scandales aussi, parce que dans le domaine alimentaire, il y a de quoi faire évidemment. Comment vous choisissez vos combats ?
Mais en fait, on travaille en collaboration avec beaucoup d'autres et on choisit les combats en fonction de leur degré de gravité et là où on pense pouvoir avoir un rôle à jouer. Donc par exemple, les additifs dangereux pour la santé, le premier problème, c'est qu'il y a 330 additifs autorisés dans la réglementation européenne. Donc c'est trop. Les toxicologues disent attention, c'est trop, il y a des risques d'effets cocktails beaucoup trop importants. Et derrière, on dit bon, c'est trop, il faut réduire. Mais pour commencer par un combat concret, atteignable, on a demandé l'interdiction des additifs à base de nitrite parce que les études scientifiques sont claires et qu'on voit bien que l'industrie sait faire autrement. Pareil pour l'aspartame. Sur le plan économique, parce que c'est de plus en plus un problème aussi, le fait qu'il y ait des millions de personnes dans notre pays qui ne peuvent pas accéder aux produits alimentaires sains, c'est pareil, on a choisi là de plus en plus une mesure hyper concrète avec Famille Rurale et Secours Catholique. Mmh. On a une pétition pour exiger que 100 produits recommandés pour la santé publique, soit mis à prix coûtant dans les supermarchés. Donc à la fois, il y a la compréhension systémique de dire où sont les vrais responsables du système et des mesures très concrètes pour faire avancer les choses.
En 2008, éclatait le scandale du lait frelaté en Chine, qui avait déjà beaucoup marqué les esprits à l'époque. Et 18 ans après cette affaire, nouveau scandale avec le lait en poudre pour bébés. Et le 29 janvier dernier, Foodwatch, donc votre ONG, portait plainte dans cette affaire en cause de la présence d'une toxine dans la poudre de lait, qui présente évidemment de nombreux risques, toxines qui peuvent générer des intoxications potentiellement graves donc chez les tout-petits. Donc on n'en sort pas. Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs entre ces deux scandales, entre la Chine là en 2008 et aujourd'hui ?
En fait, il y a un lien entre tous les scandales à répétition que Foodwatch dénonce depuis des années. Foodwatch a porté plainte, c'est intéressant de le rappeler, parce que du coup notre indépendance, ça nous permet ça aussi. Donc Foodwatch a porté plainte dans le scandale des laits infantiles déjà à l'époque, contaminés, ouais. à la salmonelle par Lactalis en 2018. On a porté plainte contre c'est des plaintes contre X, mais ciblant Nestlé et les autorités publiques d'ailleurs, dans le scandale des pizzas Buitoni en 2022 contaminées au E. coli, dans lequel il y a eu des dizaines d'enfants malades et deux morts malheureusement. On a porté plainte la même année contre Ferrero et le scandale des Kinder contaminés au salmonelle. L'année dernière, on a porté plainte deux fois dans le scandale des eaux en bouteille filtrées illégalement. Et là, maintenant, on a de nouveau porté plainte. Et surtout, on apprend, hier soir encore, tomber la nouvelle de nouveaux retraits rappels de Danone sur des nouveaux laits infantiles. Pourquoi je dis
donc
que...
Donc les marques se multiplient, en fait. Hein, celles qui sont concernées, justement, par la toxique.
Oui, oui. Et alors déjà, premier truc, là, message aux parents, parce qu'on reçoit des tas d'appels, mais je veux le redire aux personnes qui nous écoutent. C'est insupportable et inacceptable qu'on vous mette dans cette situation. La règlement européenne est très claire, c'est pour ça qu'on a porté plainte. Les entreprises doivent faire des autocontrôles, alerter immédiatement dès qu'il y a une contamination ou un risque, les gens et les autorités, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait, et les autorités publiques doivent aussi contrôler. Donc je veux dire aux gens, c'est pas normal, c'est pour ça qu'on a porté plainte, mais vous pouvez aussi continuer à nous envoyer des témoignages, y compris on entend des choses ahurissantes sur certaines de ces marques qui ne répondent pas aux consommateurs qui sont concernés, etc. Et donc, pourquoi répétition et pourquoi il faut continuer à le dénoncer pour faire changer les choses ? Dans chacun de ces scandales, ces entreprises, finalement, en tirant le fil, on a compris qu'elles avaient l'information de risque de contamination, bien avant les moments où on a commencé à avoir des rappels officiels et en entendre parler, mais elles ont mis ça sous le tapis. Tout ce laps de temps, ça veut dire des consommateurs et des enfants qui sont confrontés à un risque qui était un risque évitable. C'est irresponsable et c'est illégal.
Les plaintes, elles aboutissent ou pas ?
Les plaintes,
en général, ça donne quoi ?
Alors, elles suivent leur cours. C'est pour ça que nous, quand on porte plainte, il y a vraiment deux objectifs. Le premier, c'est de dire tout de suite, publiquement, et de faire un peu du bruit aussi pour interpeller ces marques et leur dire là, vous n'avez pas été transparent, c'est pas OK. En fait, on vous invite à être transparent le plus rapidement possible parce que, encore une fois, il en va de votre responsabilité et de la santé des gens. Et le deuxième objectif, c'est le temps long de la justice, où j'espère bien que dans le temps long, il y aura des sanctions dissuasives pour que ça s'arrête.
Et de, donc, quel oui, de quel type ?
Alors les sanctions, ça peut être des sanctions financières, hein, des sanctions aussi pénales, hein, voilà, et donc elles peuvent être assez conséquentes. La bonne nouvelle, c'est que suite aux plaintes qu'on a portées, ben en fait tout ça est en cours. Donc il y a effectivement eu des mises en examen, il y a eu une perquisition de Nestlé en Île-de-France l'été dernier dans l'affaire des eaux minérales filtrées illégalement. C'est en cours, c'est long, mais c'est en cours.
Qu'est-ce qu'elle craint,
il y a bien des enquêtes. Et là sur le scandale des laits infantiles, on attend l'annonce, et je l'espère très rapidement, du coup, d'une enquête judiciaire qui soit lancée suite à la plainte de Foodwatch d'il y a quelques jours.
Qu'est-ce qu'elles craignent le plus, les multinationales ? C'est justement le caractère réputationnel, hein, ou justement ces plaintes parce que finalement, payer quelques centaines de milliers d'euros, ça ne va pas changer tellement le business plan de ces entreprises ?
Mais d'autant plus que dans le scandale des eaux, par exemple, minérales filtrées illégalement, Foodwatch a porté plainte une première fois au parquet de Paris. Cette plainte a été délocalisée à Épinal. On a eu là la mauvaise surprise d'être appelé par notre avocat parce qu'il y a eu une transaction financière avec Nestlé suite à cette plainte. Foodwatch a évidemment refusé toute transaction financière et on a dû reporter plainte pour que maintenant, encore une fois, l'information judiciaire suive son cours. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ces marques prennent tout simplement leurs responsabilités. Quand on disait name and shame tout à l'heure, ce qu'il faut bien rappeler quand même, c'est, je le fais très rapidement, mais quand on regarde le système agroalimentaire en France aujourd'hui, on a quand même des milliers d'agriculteurs qui souffrent, des millions de personnes qui sont laissées de côté, mais au milieu, on a quelques petites dizaines de multinationales qui en fait contrôlent une grande partie du marché, et les cinq plus grandes enseignes de la grande distribution contrôlent 80% du marché alimentaire. Donc là où il faut remettre les points sur les i des responsabilités, c'est ces acteurs-là, dans la qualité ou pas des produits qu'ils mettent dans les rayons, dans l'accessibilité ou pas par rapport à l'opacité sur les marges, la construction des prix qui est aberrante, mais aussi du coup dans la gestion de ces scandales. Et oui, malheureusement, ce qui marche le mieux, c'est leur réputation, et c'est bien pour ça qu'on fait, on se met ensemble pour enquêter et demander à ce qu'ils rendent des comptes. Mais j'aimerais bien à un moment donné que ce soit les autorités publiques qui leur mettent plus la pression et qu'eux-mêmes se responsabilisent.
Karine Jacquemart, dans l'affaire, donc dans ce nouveau scandale du lait en poudre, de très nombreuses marques sont concernées par la même matière première, dont, si je ne m'abuse, une marque bio.
Oui.
Comment on s'y repère alors quand on est consommateur ? On se dit, je vais mettre beaucoup plus cher, mais au moins offrir une garantie à mes enfants en achetant un produit bio. Et in fine, on assiste à ce type de révélation.
En fait, c'est pas au consommateur d'aller mener l'enquête. Et c'est pas censé être nous non plus, sauf que comme il y a manifestement un trou dans la raquette, Food Watch le fait volontiers pour combler ce trou. Mais les consommateurs doivent pouvoir, quels que soient les produits, encore plus, a fortiori quand il s'agit de lait infantile, être dans les rayons et se dire j'achète des produits qui ne présentent pas de risque pour la santé. Donc encore une fois, c'est la responsabilité des marques. Là, manifestement, il y a les grosses marques qui ont quand même, comme on le disait, un gros poids sur le marché, qui sont en plus un peu des récidivistes, puisque Nestlé, c'est quand même la troisième fois qu'on porte plainte et Lactalis deux fois, et j'aimerais bien qu'ils changent leur pratique. Oui, il y a aussi du coup d'autres marques qui sont concernées, parce qu'on est aussi sur un marché mondialisé. Mais ce que ça montre, c'est que toutes les marques, quelles qu'elles soient, doivent prendre leur responsabilité de la traçabilité et d'informer de façon honnête et immédiate
les gens. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de garantie non plus sur le bio.
Le bio, c'est ce que c'est. C'est-à-dire que le bio, c'est un cahier des charges. Donc le bio, par exemple, sur la question des pesticides de synthèse, ben, on sait que si on achète des fruits et légumes bio, ben, c'est génial parce que, honnêtement, pour la santé, on sait qu'on n'est pas exposé à ces pesticides et aux risques pour la santé. Après, le bio, il y a moins d'additifs que dans l'alimentation normale. Il y en a une cinquantaine au lieu de 330, mais il y a encore des additifs à base de nitrite. Le bio, c'est beaucoup mieux, mais ça n'est pas une garantie de tout. Et surtout, évidemment, les entreprises bio, comme les autres, doivent respecter cette obligation de traçabilité et d'information des consommateurs.
On revient sur la loi du plomb dans un instant. Le Mercosur, il y a d'autres sujets dans l'actualité qui vous occupent beaucoup en ce moment. Karine Jacquemart, vous êtes notre invitée au carré.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
J'ai 65 ans, depuis 40 ans, je défends la profession agricole à l'île de la Réunion et j'ai jamais été en garde à vue.
Moi j'ai vu plein de gamines vouloir s'installer en maraîchage, faire un an, deux ans, trois ans et partir. Partir parce qu'il n'y avait pas de revenus alors qu'il y a tellement de pognon. Donc c'est pour ça que notre combat, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'avoir été 18 heures en garde à vue.
Une vidéo de l'AFP, c'était le 15 janvier dernier. Karine Jacquemart, qui est la directrice générale de Foodwatch France. Il y a donc trois semaines, 52 paysans étaient arrêtés et placés en garde à vue lors d'une manifestation avec la Confédération paysanne pour être entrés dans une annexe du ministère de l'Agriculture à Paris. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, cet épisode ?
Pour être entrés avec une bannière qui disait « nourrir, pas détruire ». Vous vous rendez compte ? De la violence ? Donc moi, je suis allée immédiatement en soutien, évidemment. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a plusieurs agricultures, il y a plusieurs mondes agricoles. Il y en a beaucoup plus que ça, mais pour simplifier, je crois que c'est utile de dire, moi j'en vois trois. Il y a la petite minorité qui s'accroche au système des pesticides, on va y revenir.
Mais qu'on entend beaucoup.
Et qu'on entend beaucoup et qu'on entend beaucoup trop. Il y a l'autre minorité de gens qui, depuis des années, cherchent à montrer l'exemple, depuis des années, font de l'agriculture biologique, montrent la voie, y compris plein de scientifiques qui nous ont démontré 100 fois, j'ai remis toutes les sources dans le livre exprès pour montrer que ça existe, qu'on peut évidemment faire une agriculture et nourrir la planète avec des méthodes beaucoup plus respectueuses de l'environnement et de la santé. Et il y a au milieu une majorité des agriculteurs et agricultrices qui sont pris en otage, à qui on ne laisse pas le choix parce qu'on ne leur propose pas un accompagnement vers une transition et qui sont pris en otage du coup de ce système. Et bien là, quand il y a la Confédération paysanne qui eux du coup défendent une agriculture qui respecte les gens, le vivant, la santé et qui cherche à faire entendre leur voix, qui sont en plus des représentants syndicaux, qui se font arrêter. Et je rappelle que quelques jours avant, les porte-paroles s'étaient déjà fait mettre en garde à vue pour des raisons qui semblent totalement arbitraires d'après les informations que j'ai et les vidéos qu'on a pu voir. La 52. Alors que par ailleurs, quand on a les tracteurs avec les gros klaxons, du coup, de l'autre minorité, encore une fois, la FNSEA en premier, on leur fait quasiment des cordons de policiers pour les accompagner. Mais de quoi on parle ? On vous voit, en fait. On vous voit, vous qui portez la parole de ces groupes, on vous voit aussi les autorités et Madame Genevard, j'aimerais qu'on se rende compte qu'on en parle, c'est pas possible en fait. Comment pouvez-vous justifier avec les moyens publics d'avoir des politiques aussi injustes et intolérables ? Ça n'est pas possible, on vous voit et on va pas laisser faire en fait.
Vous ne l'avez jamais rencontré, la ministre de l'Agriculture ?
Non, on a demandé un rendez-vous plusieurs fois, on ne l'a pas obtenu, je pense qu'elle ne porte pas tout à fait d'accord avec les positions que nous on porte. certes, mais les positions que Foodwatch et tous les alliés du collectif Nourrir et de beaucoup d'autres, et de Cancer Colère, et de... Parce que là, quand même, on fait des coalitions avec des associations de malades, avec des associations de médecins. On en est là. Ce sont les scientifiques, les malades et les médecins qui sont obligés de se mobiliser face à, au mieux, l'inertie des autorités publiques, face aux épidémies de maladies chroniques évitables. En fait, les malades ont autre chose à faire que de se mettre à devenir des activistes pour faire valoir ce qui devrait être l'évidence, c'est-à-dire ne pas empoisonner notre environnement.
Et pourtant, il va falloir encore mobiliser toutes les énergies à l'occasion du retour d'une nouvelle loi du plomb.
Mais non seulement ça, mais juste un mot aussi sur le lien avec Mercosur, parce qu'en fait, il faut dénoncer ce système, c'est une stratégie derrière, il faut la voir en fait. Mercosur, on a laissé passer l'accord UE-Mercosur. D'accord, la France a voté non finalement récemment, sauf que en fait, Emmanuel Macron aurait dû le bloquer depuis longtemps. Donc en vrai, on l'a laissé passer.
Il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui a été saisie quand même. Hein.
Et du coup, première bonne nouvelle, on peut encore le bloquer parce qu'il va falloir qu'il passe au Parlement européen et que quand même on fait du bruit. Et donc ensemble, pareil, on peut le bloquer.
Ça
ne
remet pas tellement en question son application. Mais bon, il y a quand même...
Si, parce qu'on peut faire du bruit là-dessus aussi. On ne va pas non plus laisser faire tous les passages en force antidémocratiques. On est bon collectivement sur le fait d'être gardien de ça, on peut encore le bloquer. N'empêche qu'on nous le fait passer. Et après, on va nous
donc
expliquer quoi.
Juste petite parenthèse très rapide, c'est l'accord commercial entre les 27 pays de l'Union européenne et 4 pays fondateurs du Mercosur, donc Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay.
Voilà, un accord de libre-échange. Alors, faire du commerce avec ces pays, bien sûr, on en fait déjà d'ailleurs, mais ce genre d'accord-là vient aggraver les choses. Donc, il va augmenter notamment les volumes d'importation de produits agricoles et alimentaires de ces pays qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, notamment les normes sanitaires environnementales. Par exemple, il y a encore des antibiotiques activateurs de croissance, beaucoup de pesticides qu'on n'utilise plus chez nous. Très bien, on laisse faire ça. Donc en fait, on va remettre nos agriculteurs et agricultrices confrontés à cette concurrence déloyale aggravée. Et derrière, ça sert de prétexte, vous voyez la stratégie, ça sert de prétexte à M. Duplomb et aussi aux décideurs européens pour dire « Bah attendez, on ne peut pas laisser nos agriculteurs face à cette concurrence déloyale, donc on va démanteler et abaisser les normes sociales et environnementales. » Moi, je vous le dis, les gens sont clairs et nous sommes clairs collectivement, on ne veut ni Duplomb 2, ni Mercosur, ni Omnibus, qui est une autre façon.
C'est ça, on a consacré une émission sur la simplification, hein.
Eh bien,
des lois européennes.
Sous prétexte de compétitivité et de simplification, il y a aussi une tentative d'omnibus pour démanteler les normes sur les pesticides, les résidus de pesticides dans l'alimentation, les additifs et même les contrôles. On parlait de la vache folle tout à l'heure. Ben, en fait, il faut continuer à avoir des normes fortes pour éviter de retomber dans ce genre de piège. Donc, on le dit, nous, on veut plus de normes sociales et environnementales compatible avec, évidemment, la vie économique et la compétitivité. Encore faut-il ne pas laisser rentrer par la fenêtre des accords comme l'accord UE-Mercosur et avoir des vraies politiques et une vraie vision de transition.
Ouais. Sur la question, justement, des pesticides, ce qui se profile à l'horizon est assez terrifiant, quand même, parce que je ne sais pas si tout le monde en prend bien la mesure de ce qui pourrait se passer à l'échelle européenne, on en avait parlé dans l'émission, c'est qu'il n'y aurait quasiment plus de contrôle, justement, sur ces pesticides qui pourraient être là quasiment à vie.
En fait, aujourd'hui, dans la réglementation...
Sans pied de remise en cause de la science.
Hein. Aujourd'hui, dans la réglementation européenne, il y a évidemment des autorisations qui sont données. Par exemple, le glyphosate, bon ben c'est 10 ans. Et à chaque fois, du coup, on revoit, les décideurs doivent revoir un peu où en est l'état de la science pour réautoriser ou pas l'utilisation de ces molécules. Et là, l'idée, ce serait de dire, en fait, on a moins de moments de révision automatique. En gros, c'est autorisé, et puis on verra bien quoi. Bon, c'est évidemment inacceptable, mais encore une fois, c'est une minorité qui se dit, tant que ça passe, on pousse le bouchon encore plus loin, qui cherche à faire en sorte qu'il n'y ait plus de normes et de règles du jeu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut utiliser des pesticides toxiques, on peut empoisonner notre environnement au détriment de la santé publique, au détriment de l'agriculture, au détriment de la majorité des agriculteurs et de tout le monde, en toute impunité. Moi, je vous le dis, en fait, non. Il y a eu « on se lève et on se casse », c'est toujours d'actualité. Moi, j'ai assez envie de dire « on se lève et on casse l'impunité » aujourd'hui.
Alors justement, quand vous dites « on ne va pas se laisser faire hein, », par exemple au sujet de la loi du plomb, vous laissez entendre quoi, clairement, Karine Jacquemart ?
En fait, il y a vraiment des coalitions qui se forment de gens qui vont faire barrage. Le Front Uni, il est très large. Donc, encore une fois, il y a le collectif Nourrir, il y a plein d'autres associations, il y a aussi des scientifiques. Tout ça fait une coalition extrêmement large. Et là, il y a un appel à mobilisation très important.
Dès ce week-end. Hein.
Dès ce week-end. Donc, déjà, il y a 80 organisations qui ont signé ce manifeste. Et dès ce week-end, il y a des manifestations partout en France. Vous pouvez aller sur les sites du collectif Nourrir ou d'autres organisations impliquées. Et surtout, le 11, c'est ça qui est très important, c'est que le 11 février, enfin, il va y avoir le débat à l'Assemblée nationale sur la loi du plomb attendue depuis des plus de 2 millions de signatures de, cette pétition. Et puisque M. Duplomb pense qu'il peut nous passer une loi Duplomb 2 par la fenêtre, eh bien il y aura une grosse mobilisation ce 11 février à partir de midi à Invalides à Paris.
Oui, mais enfin, oui, et so what, hein, j'allais vous dire.
Bon, c'est bien. Il n'y a pas que ça.
C'est bien, il faut se mobiliser.
Ah,
mais après, vous pensez que ça va vraiment casser? Parce qu'il y aura des votes de toute façon.
Bah, bien sûr, il n'y a
au
pas
Sénat.
Que ça. Il n'y a pas que ça, mais je rappelle que du coup, il y a ces mobilisations citoyennes et qu'après, toutes les organisations que l'on est, on sait aussi parler aux décideurs politiques, faire du bruit. Je rappelle que dans la première loi Duplomb, on a aussi mobilisé des personnes qui sont très influentes, qui ont des grosses communautés sur les réseaux sociaux et qui sont toujours avec nous pour empêcher l'inacceptable, en fait. Donc on n'a pas du tout fini, ni sur le plan de la mobilisation citoyenne, politique, juridique. On utilisera tous les moyens pour bloquer, en fait, ces politiques qui sont intenable et inacceptable.
Tous les moyens, c'est-à-dire jusqu'où?
Alors tous les moyens. Alors moi, je défends toujours des actions non violentes, mais le panel des actions non violentes est assez large et on ne laissera pas faire. Et après, ça, c'est moins mon credo, mais en tant que citoyenne, ben, on sait quand même aussi qu'il y a des élections bientôt et que si on regarde un peu qui est prêt à défendre plutôt quelle politique du point de vue de la santé, du point de vue de l'alimentation, de l'agriculture et de la démocratie, eh bien, je pense que c'est aussi une occasion du coup de faire pencher les prochaines décisions du côté de l'intérêt général. Enfin, donc il y a tous les moyens non violents, politiques, de mobilisation citoyenne à notre portée. Et vraiment, je suis fière de ces coalitions que l'on est en train de former, parce que, je le redis, on est ensemble, vous n'êtes pas seul, vous qui êtes de l'autre côté du coup du micro et qui...
Ou du poste,
et qui vous sentez floué, isolé, impuissant, impuissante, en colère, on est beaucoup plus puissant collectivement que ceux qui veulent nous faire croire. Et plus on fait du bruit, plus on résiste, plus on mettra des freins à cette espèce de fuite en avant qui nous amène dans le mur collectivement, juste pour l'intérêt de quelques-uns.
Une pétition comme cet été contre la loi Duplomb 1, donc, hein, avec plus de 2 millions de signatures, ça a du poids aujourd'hui?
Ça a beaucoup de points, parce que regarde, la pétition aussi sur le site de Foodwatch pour par exemple contre les nitrites nitrates, elle est signée par plus de 500 000 personnes. Et moi, je peux vous dire que j'entends dans les ministères qu'on me dit ça fait une différence. On peut pas dire qu'on ne le voit pas.
Oui, mais on voit bien qu'il y a une loi Duplomb 2 qui se profile. Alors on se dit, mais ça servait à quoi?
Elle se profile. Elle n'est ni adoptée, ni mise en application. On a encore plein de possibilités. Et plus on fait du bruit. Ce qui s'est passé sur la loi Duplomb 1, c'est très important. En fait, ils font des mesures en urgence. Comme ça, on a moins le temps de se mobiliser. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le peu de temps qu'on a eu, on a réussi à faire changer des députés, des parlementaires de vote, de voix, parce qu'ils ont compris que c'était en fait une mauvaise voie et ils ont voté contre cette loi. Si on avait eu plus de temps, si on n'avait pas une espèce aussi de course en avant, un peu antidémocratique, de vouloir faire passer à la va-vite, comme par hasard souvent l'été, ce genre de décision, on voit bien qu'on pourrait faire changer aussi beaucoup plus de parlementaires. Donc on a du temps et surtout on a le pouvoir d'agir citoyen.
Et vous avez de l'énergie, visiblement, ça s'entend dans votre voix.
Elle est proportionnelle à ce qu'on essaie de nous faire avaler.
Merci beaucoup, Karine Jacquemart. Je renvoie sur votre livre qui était sorti l'année dernière. Ça s'appelle « Les dangers de notre alimentation ». Il est toujours en librairie. C'est aux éditions Payot. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Terre au Carré. Merci beaucoup à Anna Massardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Julien Dumont à la technique. Lucie Sarfati qui coordonne la programmation de la Terre au Carré. Et Jérôme Boulet pour cette émission.